France Culture.
Bonjour le Book Club. Alors cette année, j'ai choisi d'étudier Lettres d'une péruvienne de Madame de Graffigny parce que c'est une lecture qui m'a beaucoup touchée. J'avais envie de vraiment montrer aux élèves tout ce lyrisme et ces accents pré-romantiques présents dans l'œuvre. Et puis j'avais à cœur de choisir cette œuvre parce que elle critique de nombreux éléments dans la société, dont l'éducation des filles, qui n'est pas donnée de ce fait. Je trouvais ça assez intéressant.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Comme chaque année, nous avons envie d'accompagner celles et ceux qui passent l'épreuve du bac français. Et comme chaque année, on espère que ces émissions raviront tous nos auditeurs et auditrices. Simplement, voilà, on augmente un tout petit peu ces émissions de points de méthodologie, de conseils de lecture un peu précis, bref, un peu de pédagogie. Aujourd'hui, on a choisi Les Lettres d'une Péruvienne de Françoise de Graffigny, un roman épistolaire qu'elle publie avec succès et anonymement en 1747 et qui figure au programme dans le thème Littérature d'idées du XVIe au XVIIIe siècle. On y lit la confrontation d'un personnage, d'une jeune héroïne péruvienne à l'opacité du monde. Ces lettres rendant compte d'une véritable expérience initiatique, esthétique, sentimentale, laquelle éclaire comme en retour la condition des femmes françaises, entre autres, maintenues dans l'ingénuité et les marges. Deux invités autour de notre table pour commenter ce texte et vous donner le plus d'éléments possible à mobiliser le jour de l'épreuve du bac. On est ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Charlotte Simonin.
Bonjour.
Vous êtes professeure agrégée de lettres modernes, docteur en littérature du 18e. On vous doit, entre autres, cette édition qui est Qu'est-ce que c'est?
C'est Garnier-Flammarion.
C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Garnier-Flammarion, j'ai eu un petit doute. Vous introduisez, vous annotez, vous présentez ces lettres d'une péruvienne. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette émission. Bonjour Lucille Arnaud.
Bonjour Marie.
Vous êtes professeure de lettres classiques, modernes et théâtre actuellement à l'ensemble scolaire Bourges-Centre. Vous êtes aussi docteur en lettres et vous publiez des ouvrages didactiques pour Bordas et Ellipse. Et donc, on peut se procurer Lettres d'une péruvienne dans le parcours Un nouvel univers s'est offert à mes yeux. Ça, c'est les titres qui sont donnés aux différents parcours pour préparer le baccalauréat. Et voilà, c'est un ouvrage très didactique, très pratique, très pédagogique pour approcher les Lettres d'une péruvienne de Françoise de Graffigny. Alors, ces émissions un peu particulières, l'idée, c'est aussi de se mettre dans une énergie un peu pratique. Quelles sont ces épreuves de bac français, qu'est-ce qu'on attend à l'oral et à l'écrit des élèves pour qu'ils s'y préparent correctement ?
Alors, l'épreuve écrite pour la filière générale, elle dure 4 heures. Elle propose 2 exercices, un commentaire d'un texte inconnu ou une dissertation sur œuvre, dissertation qui pourra permettre cette année aux élèves d'évoquer leur lecture, leur compréhension des Lettres d'une péruvienne de Françoise de Graffigny, si le sujet les y invite. Et une épreuve orale, l'ensemble de ces 2 épreuves correspond à un coefficient 10. Et pour l'épreuve orale, si le jury les interroge sur cette œuvre, ils auront à commenter un extrait de manière linéaire, puis à répondre à une question de grammaire.
Une seule question de grammaire.
Oui, tout à fait.
Et dans la présentation et du commentaire linéaire, ils doivent être en mesure de présenter l'œuvre en général, de présenter le contexte tel qu'on va le faire aujourd'hui ?
Tout à fait. Au niveau de l'introduction, ils doivent être capables de présenter l'auteur, le contexte d'écriture, le contexte global de l'œuvre, de manière à resituer l'extrait qu'ils ont à analyser précisément, afin de mettre les éléments analytiques qui vont suivre en perspective.
Par exemple, on va y venir, mais donc la composition de ce roman épistolaire est composée de lettres. On va leur donner un extrait de la lettre 28, ils doivent pouvoir dire, eh bien voilà, ce roman épistolaire est composé de telle manière, cette lettre arrive à tel moment, elle dit ceci, etc.
Tout à fait.
En mesure aussi, par exemple, de redire le nom des personnages, les gens qui sont...
Exactement. Ouais. Quels sont les enjeux de l'extrait compte tenu de ce qui s'est passé auparavant. Par rapport également aux analyses des personnages, où en sont-ils dans leurs évolutions et qu'advient-il également par la suite et en quoi finalement cet extrait il est particulièrement important et représentatif de l'un des aspects évoqués par Françoise de Graffigny.
Vous mentionniez 4 heures d'épreuve écrite. Et pour l'épreuve orale ?
Alors, l'épreuve orale est d'une durée de 30 minutes de préparation, suivie de 20 minutes de passage. 10 minutes sont consacrées à l'explication linéaire.
Et 10 minutes de questions ?
2 minutes de questions de grammaire. Et ensuite, ils ont une dernière partie qui porte sur une œuvre de leur choix.
Ah, qu'ils auront préparé. D'accord. Mmh. Qu'est-ce que vous conseillez dans les 20 minutes de préparation dans la salle d'à côté?
Alors, pendant la préparation...
Donc, ils ont le texte, c'est très court quand même.
Ils ont le texte, c'est très court. Relire attentivement l'extrait, se concentrer sur les principaux enjeux de l'extrait à mettre en perspective avec les grands enjeux de l'œuvre.
Se faire une petite note, du coup.
Tout à fait. Mmh. Utiliser à bon escient les brouillons. Mmh. Et puis... préparer également la question de grammaire de façon à être prêt au moment du passage.
Ça y est, j'ai peur. Et pour revenir simplement à l'épreuve écrite, dont vous dites que dans la dissertation, ils peuvent mobiliser ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont lu de Lettres d'une péruvienne de Françoise de Graffigny, et où tous les autres textes qu'ils ont étudiés pendant l'année.
Alors, il y a 4 œuvres au programme qui correspondent aux 4 genres littéraires étudiés dans l'année. Et donc, ils seront interrogés sur Françoise de Graffigny si c'est la littérature d'idées qui est choisie pour la dissertation.
D'accord. Bon, ben on va rentrer. Vous voulez donner des petits conseils méthodologiques ou pas ?
Non, ma collègue l'a fait parfaitement. Donc
On va écouter une archive d'Elisabeth Badinter en 2002 parler de Françoise de Graffigny.
Aujourd'hui, qui sait qui est Madame de Graffigny ? Personne, sauf les 18e. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Cette Madame de Graffigny, que tout le monde ignore aujourd'hui, a laissé derrière elle un monument exceptionnel, qui est une correspondance de plus de 20 000 lettres quotidiennes avec un ami resté en Lorraine. Et cette femme qui habitait Paris, qui connaissait tout le milieu intellectuel, qui était une femme avec une écriture extrêmement populaire et drôle et ironique, eh bien, on a redécouvert cette correspondance. Dans 20 ans, elle sera dans la Pléiade, parce qu'on s'apercevra qu'on ne peut pas connaître, s'amuser du 18e sans lire Madame de Graffigny. Et elle sera en poche peut-être dans 30 ans. Et peut-être dans 35 ans, les deux personnes qui incarneront le 18e, ça sera une femme qui a un œil sur tout ce qui se passe, d'une drôlerie, donnant des détails que seule une femme pense à donner, et la grande correspondance de Voltaire.
Bon, bah peut-être qu'elle est presque réalisée, Elisabeth Badinter, qui dit aujourd'hui qui sait qui est Madame de Graffigny. Eh bien, je ne sais pas, mais en tout cas, on va essayer de la présenter. Qu'est-ce qu'il faut savoir de sa biographie pour qu'on puisse ensuite savourer les lettres péruviennes ?
Bien, je vais m'efforcer de vous répondre le plus brièvement possible, mais je tenais d'abord à vous remercier de pouvoir me donner l'occasion de parler à la radio avec beaucoup de plaisir et d'émotion de Françoise de Graffigny qui m'accompagne et que j'accompagne depuis 30 ans, en fait, depuis ma maîtrise. Donc, alors, pour la biographie...
Alors, ça nous intéresse. Comment est-ce que vous l'aviez rencontrée, alors ?
Par hasard, en fait, comme toutes les rencontres heureuses ou amoureuses dans la vie.
Elisabeth Badinter qui dit, mais qui connaît Françoise de Graffigny ?
C'était le colloque de la BNF de 2002 où j'étais présente, d'ailleurs, je l'avais entendu, mais c'était peut-être un peu utopique, mais voilà, on espère qu'on y arrive bientôt.
Il y a 30 ans, vous rencontrez l'œuvre de cette femme.
Voilà, je cherchais une femme inconnue, et c'était Françoise de Graffigny, voilà, et depuis, on ne s'est plus quitté.
Alors, présente-la. Voilà.
Alors, bah, écoutez, Françoise de Graffigny, c'est une femme qui est issue de la petite noblesse lorraine. Elle a pour père quelqu'un qui est un militaire, elle est une enfant unique, et sa mère est une descendante de Jacques Callot, le graveur lorrain. Donc, elle gravite, on va dire, dans l'entourage du duc et de la duchesse de Lorraine, qu'elle a sans doute rencontré à la faveur peut-être d'une maladie de leurs enfants lorsqu'ils s'étaient retirés de Nancy.
Et donc... Elle a tous perdu.
Voilà. Et alors, elle a perdu ses propres enfants, ouais. Mais elle, je pense qu'elle a peut-être servi un petit peu de jeune fille de compagnie pour les enfants plus jeunes du duc et de la duchesse de Lorraine, avec qui elle va garder des liens toute sa vie. Hein. Anne-Charlotte, Charles de Lorraine, et puis celui qui va devenir donc l'empereur d'Autriche. Donc, elle gravite dans ce monde-là, mais suite à la cession... donc de la Lorraine à Stanislas Leczinski, elle se retrouve sans moyen de subsistance, en fait, puisque la Lorraine devient donc terre, fief de Stanislas Leczinski, et elle, qui était dans l'entourage de la duchesse de Lorraine, elle ne peut plus y rester, donc elle cherche une situation, puisqu'à l'époque, elle est veuve.
Et on dit un mot de son mari ?
Oui, tout à fait, on dit un mot de la violence, en fait, qu'elle a connue, hélas, qui est attesté par plus de 8 témoins et qui a même produit à l'époque une séparation judiciaire, ce qui est extrêmement rare. Puisqu'en général, les couples demeuraient mariés. Donc, ils avaient été séparés avant même qu'ils ne meurent. Et effectivement, 3 enfants morts en bas âge. Elle est donc assez libre, d'autant que bon, son père est encore vivant, mais ne s'intéresse pas beaucoup à elle non plus. Et elle imagine, en fait, de devenir en quelque sorte dame de compagnie de la duchesse de Richelieu, qui est d'origine lorraine. Et elle pourra la rejoindre à Paris, être auprès d'elle, peut-être lui faire de la lecture, s'occuper des enfants, et ainsi de suite. Mais malheureusement, donc c'est ce qu'elle va faire, en passant par Ciré chez les Duchâtelet, enfin chez Madame Duchâtelet et Voltaire, ou enfin Madame Duchâtelet, un peu Monsieur Duchâtelet et Voltaire. Et donc ensuite, elle arrive à Paris, mais malheureusement, la duchesse de Richelieu va décéder assez rapidement. Et donc, Françoise de Graffigny va se retrouver donc sans moyen de subsistance, inconnue et seule à Paris. Ce qui fait qu'elle-même va devoir résider dans 2 couvents successifs, en fait, de 1740 à 1742, ce qu'on va retrouver.
Ça, c'est assez intéressant, voilà. Parce qu'on en parlera tout à l'heure.
Tout à fait, avec la lettre 34, absolument. Et donc, après, elle va se faire un peu un nom dans le monde des lettres. On pourrait dire, à la mode du XVIe siècle, qu'elle est un peu une regrattière au début, c'est-à-dire qu'elle relit des textes, elle tente de les amender, de les améliorer, et puis elle-même, elle va se faire des amis dans ce monde des lettres, notamment une ancienne actrice de la Comédie française, Mademoiselle Quinault, et puis le comte de Caylus, et elle va elle-même venir, alors non pas venir à l'écriture, mais venir à la publication.
J'allais vous demander justement quelle place tient l'écriture à ce moment-là. On entendait dans la voix d'Elisabeth Badinter l'existence d'une profonde et profuse correspondance. C'est pas de cela dont il est question aujourd'hui, mais est-ce qu'elle écrit déjà, cette Françoise de Graffigny, à ce moment-là ?
Eh bien, en fait, dans le cas de Françoise de Graffigny, on a énormément de renseignements à partir de 1738, puisqu'elle a quitté la Lorraine et qu'elle se met à écrire quasiment journellement à son meilleur ami, qui donc est demeuré en Lorraine. Mmh. C'est cette correspondance massive dont parlait tout à l'heure Elisabeth Badinter, qui fait à peu près 2500 lettres conservées, enfin sans doute beaucoup plus, mais enfin 2500 lettres récupérées. Mais avant 1738, donc pendant les 43 ou 44 premières années de sa vie, on n'a pas beaucoup de renseignements, en fait, sur qui elle était, qu'elle faisait, mais on peut tout à fait raisonnablement supputer qu'elle écrivait régulièrement, mais qu'elle n'avait pas forcément envisagé d'être jamais publiée, puisque évidemment les femmes avaient tout intérêt à écrire discrètement et à publier de façon anonyme ou sous un pseudonyme.
Et donc elle pénètre la société artistique, intellectuelle parisienne. Absolument. Néanmoins. Et là, est-ce qu'elle se met à écrire immédiatement? Sous quelle forme? Comment est-ce qu'elle arrive progressivement à l'écriture? Parce que on va y venir, le moment où elle publie Lettres d'une péruvienne, c'est un succès considérable.
Absolument. En fait, je pense qu'elle a toujours écrit, mais que c'est plutôt l'idée de franchir le Rubicon de la publication qui était peut-être plus difficile. Et elle va y être incitée par donc ce groupe de gens de lettres qu'on appelait le groupe du bout du banc, avec notamment Caylus, Crébillon-Fils, Voisenon, Moncrief, enfin tout un ensemble d'hommes de lettres, essentiellement des hommes de lettres, mis à part Françoise de Graffigny et l'ancienne actrice de la Comédie française Jeanne Quinault. Et ils vont l'encourager à publier, et d'abord, donc ça va être un conte, une nouvelle, la nouvelle espagnole, puis un conte, de fait, ça c'est les deux en 1745, et ça va en quelque sorte peut-être la lancer.
Elle est lue à ce moment-là quand elle publie ?
Alors, on a assez peu de retentissement, et puis elle n'est pas très contente parce qu'elle aurait aimé passer davantage de temps à corriger, à améliorer sa prose, mais comme c'est une sorte un peu de plaisanterie littéraire aussi, vous voyez, un peu comme on pouvait avoir au XVIIe, ça a été publié assez rapidement. On ne sait pas trop, et de toute façon, pendant très longtemps, toutes ces œuvres ont été attribuées à Caylus, en fait, et publiées dans les œuvres complètes de Caylus. On ignorait qu'il y avait d'autres auteurs, y compris Françoise de Graffigny.
Alors, quand on arrive aux lettres péruviennes, elle a quel âge? Et pourquoi est-ce que c'est un tel choc dans cette société littéraire et au-delà?
Alors, elle a quel âge? Elle est c'est peut-être un peu étonnant pour nous aujourd'hui, en 2026, mais enfin, elle est relativement âgée, même très âgée.
C'est ce que j'allais dire.
Elle a 43, 44, ouais. 44 ans. Et c'est un choc immédiat, mais malheureusement sur lequel nous avons peu, là encore, de renseignements tout à fait précis, puisque son ami, donc ce François Deveau, séjournait parfois à Paris, et lorsqu'il séjournait à Paris, la correspondance s'interrompait. Et dans le moment où paraissent les lettres d'une péruvienne, c'est-à-dire fin 1747, début 1748,
il est
à Paris, malheureusement pour nous. Donc, on ne sait pas immédiatement à quel point le succès a été immense. On peut là aussi simplement.
Mais alors, comment est-ce qu'on peut, pourquoi est-ce qu'on le raconte? C'est la republication de 1752 qui nous fait parler de ce succès immense, Lucie Larnaud?
On a quand même une trace du début de la composition de cette œuvre dès 1745.
Et sous forme de brouillon?
Alors, sous forme de brouillon, et puis elle évoque aussi la construction de son personnage qu'elle nomme d'abord Zélie dans la correspondance avec son ami Devaux.
Et qui s'appellera?
Qui s'appellera ensuite Zilia. Et elle évoque la construction, la façon dont elle pense son personnage, les idéaux qu'elle souhaite évoquer dans cette œuvre, la critique également de la société du XVIIIe siècle. Et donc tout cela donne lieu à un échange épistolaire. Comme le disait Charlotte, nous sommes aujourd'hui très loin d'avoir exploré l'intégralité de ces documents, mais qui nous fournissent des informations particulièrement précieuses sur le contexte d'écriture et de publication. Il reste, pour l'instant, comme Charlotte le disait, on a travaillé sur 2500 lettres. Il en resterait vraisemblablement à peu près autant à découvrir, à travailler et à traiter. Et donc, on a en fait un témoignage de la naissance en fait de ce personnage, la manière dont elle imagine le modeler.
Comment est-ce qu'elle en parle? Parce que c'est pas rien d'imaginer une jeune femme.
Et cela, alors, ça fait l'objet d'un débat épistolaire avec son ami. Et notamment, par exemple, ils évoquent la fin et de l'œuvre, la destinée de ce personnage. Devra-t-elle se marier ou non avec son protecteur d'Héterville? Et dès le début, en fait, et la jeunesse de cette œuvre, Madame de Graffigny imagine que la question du mariage doit être au centre finalement du propos et de l'évolution de l'héroïne.
Donc, qui est Zilia, cette héroïne, dans la tête de Madame de Graffigny?
Alors, c'est une jeune Inca qui a été enlevée à son pays, à ses coutumes, à sa langue, à son amour qu'elle idéalise, Aza. Elle a été donc arrachée brutalement à ses racines pour être emmenée en Europe dans une civilisation qu'elle ne connaît pas, plongée dans des coutumes, religions, mœurs et dans une langue qu'elle ne comprend pas.
Et donc, dont elle va pouvoir être une observatrice très précise et précieuse.
Exactement. Et c'est une héroïne fictive, mais qui est aussi, à mon sens, un reflet de l'idéal des Lumières et peut-être aussi de la manière dont Madame de Graffigny propose de réfléchir à la condition des femmes.
On reviendra sur ce motif du reflet, du miroir, du double, qui est un des fils thématiques qu'on peut retrouver dans les lettres. Est-ce qu'elle a voyagé, cette femme? Qu'est-ce qu'elle sait du Pérou? Qu'est-ce qu'elle sait du monde? Est-ce qu'elle s'est déplacée?
Écoutez, elle a très peu voyagé. Je crois que peut-être doit subsister sur le site de la Sorbonne une conférence que j'avais faite il y a bien longtemps sur justement le thème des voyages, pour dire que en réalité, à partir du moment où elle arrive à Paris, c'est-à-dire donc début 1739, elle ne va plus guère quitter Paris. Il est question qu'elle aille au Languedoc pour justement aller auprès de la duchesse de Richelieu, mais comme c'est celle-ci qui est malade et qui va revenir à Paris, je crois qu'il y a quelques incursions parfois à Versailles, à Thiers. Mais elle va rester absolument et pour toujours parisienne. Donc, pour répondre à votre question, ce Pérou, c'est avant tout un Pérou livresque.
C'est pas un Pérou imaginaire, c'est quand même un Pérou documenté.
Les deux, en fait. C'est-à-dire que je pense qu'on peut parler, Lucille ou moi, de l'influence d'Alzire, qui est une tragédie de Voltaire qu'elle a vue en 1743 et qui l'a énormément marqué, qui lui a beaucoup plu, ce qui fait qu'elle s'est plongée dans les ouvrages plus documentaires de Garcilaso de la Vega qui, là, vont donner justement cette dimension plus historique et plus réaliste.
Et le Pérou, plutôt qu'un autre pays, on sait pourquoi ?
Pas particulièrement. Par contre, dans la deuxième édition de 1752, elle ajoute une introduction historique aux lettres d'une péruvienne. Introduction assez courte, mais néanmoins documentée, et qui fait état de ces découvertes livresques et qui expose un certain nombre en fait de faits sur ses connaissances liées au Pérou et qui servent de base à la construction de sa fiction.
On a dit tout à l'heure que dans l'épreuve de français pour les étudiantes et étudiants, les lycéennes et lycéens, c'était bien d'être capable de présenter ce livre-là. Est-ce que ce qu'on vient de faire là, la petite notice biographique, elle a lieu d'être faite en plus court, Lucile Arnaud,
tout à fait.
Dans le moment ?
Effectivement, oui, en plus court néanmoins, puisque l'intérêt...
Mais ça veut dire qu'il faut s'entraîner à être capable de la présenter.
Tout à fait, oui. Et donc, on parlait de conseils tout à l'heure. Je pense que, bien sûr, en fait, l'épreuve passe par une compréhension, évidemment, d'un certain nombre de phénomènes, mais aussi des étapes d'entraînement pour verbaliser à la fois précisément et synthétiquement qui était française.
Oui, c'est
de
pas facile. Ouais. Et avec des choses justes et pertinentes, c'est-à-dire ça sert à rien de dérouler la totalité. Là, on l'a fait en prenant un petit peu de temps, parce qu'en même temps, on fait aussi une émission de radio. Mais donc, c'est bien de s'entraîner à être capable d'être très synthétique dans cette présentation. Peut-être quand même, Charlotte Simonin, dire un mot de ce dans quoi aussi cela s'inscrit d'un point de vue de l'éducation nationale. C'est que évoquer ce texte-là de 1747, c'est aussi être capable de se saisir autant qu'on peut, quand on est en première ou en terminale, d'un contexte, d'un temps d'écriture. C'est ce grand parcours de la littérature d'idées du 16e et du 18e. Donc, est-ce qu'il faut aussi être capable, en une ou deux phrases, de relier avec l'intitulé du parcours ? J'imagine que ça fait sens aussi.
C'est vrai que les deux autres œuvres sont donc le discours de la servitude volontaire de la Boétie et puis du Fontenelle. Donc, effectivement, où là, peut-être la dimension de littérature d'idées est plus apparente. Mais ce qui est certain, je pense, pour tous mes collègues ou pour les élèves qui étudient Françoise de Graffigny, c'est que cette dimension de littérature d'idées est bien présente, en fait, même si elle est peut-être un peu dissimulée derrière la dimension amoureuse. Hein, on va en reparler.
On va y venir tout de suite. Ouais. Mais même un étudiant qui dirait cela, ce serait déjà parfait. C'est-à-dire quelqu'un qui serait en mesure de dire oui, voilà, j'ai découvert ce texte dans le cadre de ce parcours. Cette dimension des idées existe. J'y reviendrai en évoquant l'une des lettres. Mais c'est vrai que c'est dissimulé derrière l'épistolaire amoureux et il a déjà dit quelque chose ou elle a déjà dit quelque chose.
Tout à fait, qui reflète sa compréhension de ce qu'est une argumentation indirecte.
Le roman épistolaire, donc, s'est constitué de lettres. On va écouter un extrait d'une première lettre. On est à la lettre 18 pour aborder donc cet épistolaire amoureux.
Combien de temps effacé de ma vie, mon cher Raza ? Le soleil a fait la moitié de son cours depuis la dernière fois que j'ai joui du bonheur artificiel que je me faisais en croyant m'entretenir avec toi. Que cette double absence m'a paru longue ! Quel courage ne m'a-t-il pas fallu pour la supporter ? Je ne vivais que dans l'avenir. Le présent ne me paraissait plus digne d'être compté. Toutes mes pensées n'étaient que des désirs, toutes mes réflexions que des projets. Tous mes sentiments que des espérances. À peine puis-je encore former ces figures que je me hâte d'en faire les interprètes de ma tendresse. Je me sens ranimé par cette tendre occupation. Rendu à moi-même, je crois recommencer à vivre. Asa, que tu m'es chère, que j'ai de joie à te le dire, à le peindre, à donner à ce sentiment toutes les sortes d'existences qu'il peut avoir. Je voudrais le tracer sur le plus dur métal, sur les murs de ma chambre, sur mes habits, sur tout ce qui m'environne, et l'exprimer dans toutes les langues. Hélas, que la connaissance de celle dont je me sers à présent m'a été funeste, que l'espérance qui m'apportait à m'en instruire était trompeuse. À mesure que j'en ai acquis l'intelligence, un nouvel univers s'est offert à mes yeux. Les objets ont pris une autre forme. Chaque éclaircissement m'a découvert un nouveau malheur. Mon esprit, mon cœur, mes yeux, tout m'a séduit. Le soleil même m'a trompé. Il éclaire le monde entier, dont ton empire n'occupe qu'une portion, ainsi que bien d'autres royaumes qui le composent. Ne crois pas, mon cher Asa, que l'on m'ait abusé sur ces faits incroyables. On ne les a que trop prouvés.
Un premier extrait d'une première lettre, la lettre numéro 18, donc c'est lettre qui compose le roman épistolaire « Lettre d'une Péruvienne » de Françoise de Graffigny. Vous parlez à propos de cette formule, Charlotte Simonin, « Asa, mon cher Asa », une dimension circulaire, d'une esthétique du ressassement, de quelque chose de l'obsession. C'est une dimension très importante pour évoquer ce livre-là, c'est que c'est un épistolaire amoureux et quelque chose qui part de là.
Oui, absolument. C'est vrai que là, de ce point de vue-là, Françoise de Graffigny se situe dans la lignée des héroïdes. Hein. On peut remonter à Ovid, bien sûr, avec toutes ces héroïnes antiques qui sont souvent des femmes abandonnées, malheureuses, qui parfois vont aller jusqu'au suicide. Et puis, on peut remonter jusqu'à, évidemment, les lettres de la religieuse portugaise, 1669, Guillerague, qui, à l'époque, était cru être des lettres authentiques, d'ailleurs. Donc il y a ce côté, oui, monodique.
Puisqu'on ça veut parlera... dire quoi le recueil monodique?
Alors, monodique, ça, c'est juste une seule personne qui écrit à une autre et non pas polyphonique. Je pense qu'on parlera tout à l'heure des lettres persanes. Enfin, c'est difficile de ne pas en parler, mais justement, dans les lettres persanes, il y a Rika, il y a Usbek, il y a Roxane, il y a un certain nombre d'autres femmes ou d'autres correspondants masculins. Là, il y a cet effet aussi de ressassement dans la mesure où c'est toujours...
Elle n'écrit qu'à Asa.
Et c'est toujours elle qui écrit. Alors, avec peut-être cette petite nuance qu'à la fin du recueil, puisque Asa s'occupe ailleurs avec une Espagnole, elle écrit à Déterville. Donc, il y a cette petite variation sur l'absolue monodie. Mais voilà, effectivement, là, on est dans le ressassement, dans la répétition.
L'obsession amoureuse et l'obsession de l'écriture, ça va presque de pair. C'est-à-dire qu'elle ne connaît pas d'occupation meilleure que celle d'écrire et d'écrire à Asa pour lui raconter ce qu'elle vit, mais surtout pour lui raconter combien elle l'aime.
Tout à fait. Et de ce point de vue, la lettre est exploitée comme une sorte de journal intime, un espace de confidence qui la console finalement aussi de cette séparation. Et c'est une façon d'être à nouveau avec ce bien-aimé par procuration, puisqu'elle est séparée de lui géographiquement.
Mais elle commente justement ce que permet la lettre en discutant de l'illusion de la coprésence. Quand je t'écris, je suis avec toi. Il s'est passé tant de temps, tant de lunes, tant de soleils depuis que je ne t'ai pas écrit. Il y a vraiment l'idée de la lettre et de la correspondance comme d'une coprésence.
Absolument, et c'est vrai que là, on est presque parfois dans une sorte de poème en prose. Je pensais à Liberté de Paul Éluard, voilà, quand elle dit dans le passage qui vient d'être lu, je voudrais le tracer sur le futur métal, sur les murs de ma chambre, sur mes habits, etc.
Liberté, je dis ton nom,
voilà. Tout à fait, hein, c'est le langage amoureux qui s'étourdit de lui-même, en fait.
Cette dimension amoureuse du roman épistolaire, qu'est-ce qu'on peut en dire de plus pour que les lycéennes et lycéens qui nous écoutent puissent aussi le dire lors d'un oral, Lucille Arnaud ? Que faudrait-il rajouter sur cette dimension ?
Peut-être comprendre quelles sont les caractéristiques stylistiques de cette esthétique du ressassement, parce que je pense que l'enjeu et les fonctions, on les a évoquées, en évoquant peut-être quel type de formule, qu'est-ce qui fait précisément qu'on peut parler d'une esthétique du ressassement, donc la récurrence des apostrophes adressées à Asa, qui sont présentes dans toutes les lettres sous différentes formes, mon cher Asa, l'âme de ma vie, de mes nuits, avec le déploiement de tout un champ lexical de la lumière qui participe à l'idéalisation, voire à la déification.
Bien sûr, c'est presque un dieu soleil, ce Asa, pour Zilia.
Tout à fait. La présence de questions rhétoriques incessantes qui permettent de... Alors, qui font partie des codes du genre épistolaire, mais qui permettent aussi de créer une illusion référentielle, avoir l'illusion que l'interlocuteur pourrait possiblement nous répondre, tout en interrogeant aussi le lecteur en fonction des différentes thématiques évoquées. Et puis, ces questions rhétoriques relancent la parole elle-même, qui finalement, en fait...
S'enivre aussi d'elle-même.
S'enivre d'elle-même. Se nourrit et s'alimente par ces éléments-là.
Elle est constante dans sa position amoureuse, Zilia ? Est-ce qu'elle se déplace ? Est-ce qu'elle se démarque ?
Alors, elle est constante jusqu'à un point de bascule qui se situe dans la lettre 34 et qui provient en fait du changement d'Asa et non pas de sa volonté, la volonté personnelle de Zilia. Donc lettre 34 où elle éprouve détresse, désespoir face au changement de son bien-aimé. Puisque Charlotte l'évoquait tout à l'heure, il s'occupe avec une Espagnole et lorsqu'elle apprend cette trahison, bien sûr, elle est plongée dans un profond désarroi, alors même que son amour est un exemple en fait de constance, de loyauté, de pureté. Et donc ici, on assiste au début d'un changement et d'une désillusion qui va engendrer aussi toute la fin de l'œuvre et ses prises de décision futures.
On va y venir. Vous vouliez rajouter quelque chose?
Oui, simplement à tout ce que Lucille a énuméré avec raison de figures de style, peut-être les anaphores aussi et les épiphores, c'est-à-dire la même chose, mais à la fin de la phrase, donc qui accentue l'effet de scansion et l'effet de refrain dans les phrases et dans les lettres.
On va faire un petit retour en arrière. Vous évoquiez l'effet miroir. On a aussi parlé de ce personnage inventé de Zilia, personnage Inca, qui est arraché du Pérou pour vivre une sorte de périple. Ce périple, il a une dimension esthétique, sentimentale, donc avec la dimension qu'on vient d'évoquer là, mais aussi presque du côté de l'inquiétante étrangeté, avec des situations, des rapports au miroir, y compris des sensations physiques étonnantes. On va lire un extrait de la lettre 12.
J'ai passé bien du temps, mon cher Asa, sans pouvoir donner un moment à ma plus chère occupation. Et j'ai cependant un grand nombre de choses extraordinaires à t'apprendre. Je profite d'un peu de loisir pour essayer de t'en instruire. Le lendemain de ma visite chez La Palace, Déterville me fit apporter un fort bel habillement à l'usage du pays. Après que ma petite China l'eut arrangé sur moi à sa fantaisie, elle me fit approcher de cette ingénieuse machine qui double les objets. Quoique je dusse être accoutumé à ses effets, je ne pus encore me garantir de la surprise en voyant comme si j'étais vis-à-vis de moi-même. Le cacique entra dans ma chambre au moment que la jeune fille ajoutait encore plusieurs bagatelles à ma parure. Tandis que je le considérais avec surprise et que je tâchais de deviner pourquoi Déterville nous enfermait si étroitement, mon cher Asa, que les prodiges sont familiers dans ce pays, je sentis cette machine ou cabane, je ne sais comment la nommer, je la sentis se mouvoir et changer de place. Ce mouvement me fit penser à la maison flottante. La frayeur me saisit. Le cacique, attentif à mes moindres inquiétudes, me rassura en me faisant voir par une des fenêtres que cette machine, suspendue assez près de la terre, se mouvait par un discret mouvement que je ne comprenais pas. Il faut, ô lumière de mes jours, un génie plus qu'humain pour inventer des choses si utiles et si singulières. Mais il faut aussi qu'il y ait dans cette nation quelques grands défauts qui modèrent sa puissance, puisqu'elle n'est pas la maîtresse du monde entier. Il y a 4 jours qu'enfermés dans cette merveilleuse machine, nous n'en sortons que la nuit pour reprendre du repos dans la première habitation qui se rencontre, et je n'en sors jamais sans regret. Je te l'avoue, mon cher Asa, malgré mes tendres inquiétudes, j'ai goûté ce voyage du rang des plaisirs qui m'étaient inconnus. Renfermé dans le temple dès ma plus tendre enfance, je ne connaissais pas les beautés de l'univers. Et quel bien j'avais perdu.
Un extrait de la lettre 12, des lettres péruviennes de Françoise de Graffini. Dans cette émission, on vous aide à préparer l'épreuve de bac français. On entre dans une dimension étrange, étonnante. On en revient au choix que fait Françoise de Graffini de cette jeune héroïne Inca qui va découvrir donc avec un œil d'étrangère la société française et aussi les aspects plus matérielle, qu'est-ce que c'est que cette cabane roulante, qu'est-ce que c'est que ces objets qui interpellent la jeune Zilia, et qu'est-ce qu'elle joue là, Françoise de Graffigny, dans le regard qu'elle met en scène dans cette narration, à quoi ça lui sert. C'est un aspect important, pour ne pas dire central, de ce roman.
Oui, absolument.
Charlotte
puisque ici, il y a à la fois l'emploi de périphrases un peu naïves pour qualifier le monde nouveau qui s'offre à ses yeux, comme on peut trouver déjà justement dans les lettres persanes en 1721 ou dans tous les textes précédents de même type, du genre l'espion turc ou les ouvrages de Dufresny. Mais il y a aussi, vous le soulignez, le fait que ce soit un miroir et que donc on peut penser qu'il y a une sorte d'effet d'annonce par rapport justement à la lettre 34 et à l'importance de l'apparence pour les jeunes femmes et cette fascination qu'elle va critiquer, mais en même temps l'importance de la parure comme le montre l'une des gravures, puisque dans l'édition 1752 le texte est édité avec deux gravures et la gravure représente justement Zilia alors qu'elle essaye ses vêtements et puis d'Éterville qui est en train de la regarder aussi. Voilà.
On va y venir à cette lettre 34 qui est aussi une lettre de la bascule, Charlotte Simonin, mais comment est-ce qu'on peut, là, à l'oral, pendant l'épreuve, détailler ce regard de l'étranger qui va de pair avec l'idée de l'étrangeté, Lucie Larnaud ?
Alors ici, Zilia est dans une posture d'observation attentive pour tenter de comprendre ce qui se passe autour d'elle, alors même que à ce moment-là du roman, dans la lettre 12, elle n'a pas encore une perception pleine et entière du langage. Donc elle se fait l'observatrice du monde, des hommes, et elle tente en fait de retranscrire ce qu'elle comprend et ce qu'elle perçoit à travers des périphrases, comme le disait Charlotte, mais aussi en utilisant des mots incas qui émaillent l'ensemble du roman de façon à...
Des vrais mots incas.
Des vrais mots incas, de façon en fait à rapprocher ce qu'elle ne connaît pas de ce qu'elle connaît. Donc,
Et ça, c'est un procédé, Charlotte Simonin disait que procédé habituel dans les romans, faire intervenir un personnage depuis l'étranger qui regarde la société qui est la société d'origine de celle ou celui qui écrit, on a déjà vu ça.
On a déjà vu ça, et notamment, effectivement, en 1721, par exemple, avec les lettres persanes. Toutefois, ici, on a peut-être la différence avec ce qu'on pouvait avoir dans les lettres persanes. Ici, on a vraiment une observation qui est associée à une ouverture d'esprit, un accueil des phénomènes, sans qu'il y ait un jugement immédiat des valeurs et de ce qui est proposé. On est véritablement dans une soif de compréhension, une soif de découverte. Et un regard qui est plutôt...
Humaniste, on dirait, quoi.
Humaniste et en même temps naïf aussi. Et notamment parce que, par exemple, dans la lettre 12, d'Éterville commence à user de psittachisme avec Zilia. C'est-à-dire qu'il... Alors qu'elle ne comprend pas encore la langue, il lui fait répéter par automatisme des termes... évoquant l'idée de « je vous aime », comme si finalement c'était quelque chose qu'elle pouvait lui dire et qui pouvait aller dans le sens de ce que lui aimerait entendre. Mmh. Donc, tout de même, finalement, une naïveté, une candeur, ce qui va expliquer aussi l'évolution de l'héroïne et sa volonté de mieux comprendre le monde et les êtres pour ne plus en être la victime, la proie. Et dès lors qu'on aura cette prise de conscience, à partir de la lettre 17, elle va être déterminée à apprendre la langue pour en maîtriser toutes les finesses et pouvoir décrire avec justesse aussi ce qu'elle peut observer du monde.
Et on y vient dans cette lettre 34, mais comme Françoise de Graffigny est aux commandes dans l'invention de ce personnage et dans l'évolution aussi de son point de vue et de son regard, qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle nous dit en fabriquant le regard de Zilia, en rendant compte de la sensibilité de Zilia que vient de décrire Lucie Larnaud, Charlotte Simonin ?
Déjà, c'est vrai que l'une des différences majeures, c'est qu'ici, on a affaire à une femme, à une jeune femme, et qui, en plus, jusque-là, vivait enfermée, puisqu'elle était à Cusco, elle était dans une sorte d'équivalent péruvien d'un couvent, en fait, hein, justement, dans le Temple du Soleil, avec d'autres vierges. Donc, en effet, comme le disait Lucille, il y a cette découverte du monde, mais qui aurait aussi été découverte du monde au Pérou. Voilà, il y a cette espèce de double effet miroir. Mais il y a cet appétit. Je crois que cet appétit aussi est un point biographique, autobiographique, par rapport à Françoise de Graffigny elle-même. Cette envie de lire, elle va être très heureuse quand dans la maison que lui a offerte d'Héterville, elle va découvrir qu'elle a une magnifique bibliothèque, c'est l'endroit qu'elle préfère dans la maison, et elle souhaite voilà apprendre à écrire, apprendre à parler, questionner l'homme qui est chargé de l'instruire. Donc il y a ce goût pour le savoir, alors que peut-être, puisque nous parlions des lettres persanes, Rica, Usbek ou d'autres encore sont peut-être plus blasés, puisque bon, d'abord ce sont des hommes, donc ils étaient déjà sortis, et puis surtout ce sont des voyageurs, et c'est un voyage parmi d'autres, même s'il est fascinant.
Alors que là, il y a aussi quelque chose de l'appétit ou de l'impatience qui vient du fait que, quel que soit son endroit sur le monde, que ce soit au Pérou ou qu'elle ait été jeune fille en France, en couvent, elle est d'abord enfermée, donc on vit aussi sa délivrance, quoi.
Tout à fait. Et dans cette lettre 12, donc, elle découvre la calèche, mais
cette fameuse cabane roulante,
cette fameuse suspendue, cabane très peu roulante, très peu. Qui suit un précédent enfermement qui était celui du bateau, qu'elle nomme aussi par des
flottantes. Maison flottante.
Et pourtant, alors là déjà, on voit qu'elle a...
Jeu sur le langage au passage.
Jeu sur le langage, et qu'elle a déjà évolué parce que cette maison flottante qu'est le bateau la plonge dans un désarroi et dans une peur absolue, puisqu'en plus redoublée par le fait qu'elle vient d'être arrachée à ce qu'elle connaissait. Tandis qu'ici, finalement, même si on a un premier effroi, il se dissipe bien vite par cette envie que soulignait Charlotte, cet appétit de découverte
et de comprendre
du monde.
On va écouter un extrait de cette fameuse lettre 34.
Il m'a fallu beaucoup de temps, mon cher Raza, pour approfondir la cause du mépris que l'on a presque généralement ici pour les femmes. Enfin, je crois l'avoir découverte dans le peu de rapport qu'il y a entre ce qu'elles sont et ce que l'on s'imagine qu'elles devraient être. On voudrait, comme ailleurs, qu'elles eussent du mérite et de la vertu. Mais il faudrait que la nature les fît ainsi. Car l'éducation qu'on leur donne est si opposée à la fin qu'on se propose qu'elle me paraît être le chef-d'œuvre de l'inconséquence française. C'est sur les attitudes plus ou moins gênantes de leurs filles que les parents se glorifient de les avoir bien élevées. Ils leur recommandent de se pénétrer de confusion pour une faute commise contre la bonne grâce. Ils ne leur disent pas que la contenance honnête n'est qu'une hypocrisie si elle n'est l'effet de l'honnêteté de l'âme. On excite sans cesse en elles ce méprisable amour-propre qui n'a d'effet que sur les agréments extérieurs. On ne leur fait pas connaître celui qui forme le mérite et qui n'est satisfait que par l'estime. On borne la seule idée qu'on leur donne de l'honneur à n'avoir point d'amant, en leur présentant sans cesse la certitude de plaire pour récompense de la gêne et de la contrainte qu'on leur impose. Et le temps le plus précieux pour former l'esprit est employé à acquérir des talents imparfaits, dont on fait peu d'usage dans la jeunesse et qui deviennent des ridicules dans un âge plus avancé. Elles ne sont pas mieux instruites sur la connaissance du monde, des hommes et de la société. Elles ignorent jusqu'à l'usage de leur langue naturelle. Il est rare qu'elles la parlent correctement, et je ne m'aperçois pas sans une extrême surprise que je suis à présent plus savante qu'elles à cet égard. C'est dans cette ignorance que l'on marie les filles, à peine sorties de l'enfance. Dès lors, il semble, au peu d'intérêt que les parents prennent à leur conduite, qu'elles ne leur appartiennent plus. La plupart des maris ne s'en occupent pas davantage. Il serait encore temps de réparer les défauts de la première éducation. On n'en prend pas la peine.
À Alors pourquoi est-ce qu'elle est importante à évoquer cette lettre 34, Lucile Arnaud ?
Parce qu'elle est un témoignage déjà de l'éducation qui était réservée aux femmes au XVIIIe siècle et dont Céline, qui est la sœur de Déterville et qui devient l'amie de Zilia, est un exemple, c'est-à-dire une éducation sommaire qui doit les conduire à devenir de bonnes maîtresses de maison lorsqu'elles sont chanceuses. C'est aussi une lettre qui parle de l'infériorité féminine et du poids qui pèse sur la femme qui est finalement reléguée au rang d'objet.
Et méprisée, c'est méprisée. La première phrase, un des mots qui est prononcé au tout début de cette lettre. J'ai mis du temps à comprendre le mépris que l'on réserve à la gente féminine. Je rappelle qu'on est en 1747, c'est étonnant, ce n'est pas étonnant. Tout à l'heure, on parlait des brouillons et de l'évocation de son œuvre à venir dans la correspondance. On commentait le projet qu'elle avait. Est-ce que dans ce projet-là, quand elle s'imagine les lettres d'une péruvienne, il y a l'idée de vraiment d'une critique acerbe et assez frontale de la condition féminine des jeunes femmes notamment ?
Alors, oui, et en même temps, c'est quelque chose qui s'explique aussi quand même véritablement par le contexte d'écriture et qui peut être assez peut-être surprenant quand on pense à ce qu'on attache à la philosophie des Lumières. Mmh. Mais par exemple, quand on consulte l'article « Femmes » de l'encyclopédie ou quand on regarde ce que disent les philosophes des Lumières des femmes dans cette encyclopédie, donc article « Femmes » ou article « Morale », finalement, cette critique, elle est justifiée parce que ce mépris, finalement, pour... dans l'article « Morale », on trouve ce qui n'est que la moitié du genre humain.
Bon, bah, tout est dit.
Pour désigner une femme. Et je trouve que c'est une expression assez facile à retenir et qui, en même temps, est explicite. Et donc, Françoise de Graffigny, elle a souffert finalement aussi de cette condition. Et Zilia est ici le reflet, la porte-parole de ce qu'a pu vivre l'auteur, mais de ce qu'ont pu vivre aussi les femmes à cette époque.
On disait que la première publication en 1747 se fait anonymement, pas sous son nom.
Oui, tout à fait. Mais c'est vrai qu'en même temps, on parlait des lettres persanes une fois de plus, qui elles aussi étaient parues de façon anonyme. C'est-à-dire que vous soyez une femme ou que vous soyez d'un milieu relativement aisé ou protégé, souvent il y a cette publication anonyme. Mais en effet, cette lettre que nous venons d'évoquer va être une des deux lettres rajoutées lors de l'édition de 1752, où en fait on a trois lettres en tout, en plus, puisqu'il y en a une qui est scindée en deux, et puis deux qui se sont rajoutées, dont celle-ci. Donc effectivement, on peut penser que c'est quelque chose qui lui tient à cœur et qu'on retrouve d'ailleurs ce thème de l'éducation féminine aussi dans ses pièces de théâtre, aussi de façon un peu étonnante, mais même dans son conte de fées que j'évoquais tout à l'heure. C'est vraiment quelque chose d'important pour elle, oui.
Et pourtant, cela fera l'objet de vives critiques au niveau de la seconde édition, et notamment parce que c'est quelque chose qui va être reçu comme un élément très violent.
Et pourtant, comme si c'était étonnant.
Alors oui, parce que si on se base sur finalement tout ce qu'a pu apporter la philosophie des Lumières et cet appel à un idéal de liberté, d'ouverture, finalement qui caractérise l'époque. Donc ça a été véritablement l'un des éléments les plus critiqués.
Mais comme étant, vous faites une mauvaise peinture. C'est une sociologie biaisée de la manière dont nous éduquons les filles et les jeunes filles, ou comme étant nous n'avons pas envie de voir cet aspect de notre société.
Plutôt, nous n'avons pas envie de voir, et en même temps, c'est à mettre en lien avec le regard de l'étranger, puisqu'on a des traces de critiques qui expliquent que finalement, le fait qu'une princesse péruvienne puisse se permettre de porter un tel regard sur la société française, qui était conçue comme bien supérieure à celle du Pérou, c'est absolument inenvisageable.
Inconcevable. Sur cette dimension-là, Charlotte Simonin, pour un ou une élève qui passe l'oral ou qui se saisit des lettres d'une péruvienne pour sa dissertation, est-ce qu'il est, on va dire, de bon ton d'évoquer une sorte de mini traité sociologique, de documents qui permettrait de regarder l'époque
du 18e. Mais en même temps, cette critique sur l'éducation féminine, vous la trouviez déjà chez Molière, finalement, dans l'École des femmes.
Dans l'école des Maris, c'est déjà un peu le même problème, pour ne pas parler du misanthrope. L'important, c'est d'être belle, et quand on est moins belle, que reste-t-il? Il reste à être croyante ou à être faussement pieuse, hein, comme Arsine Noé, et on va la retrouver encore après, par exemple, dans les Liaisons dangereuses, parce que c'est vrai que Cécile, vous vous rappelez la toute première lettre, où elle croit que le cordonnier est en fait son futur mari, puisque justement, elle est tellement naïve et inexpérimentée que tout homme qu'elle croise et prie pour un futur mari.
On va écouter Angélique, auditrice du Book Club. Elle a décidé d'enseigner les lettres d'une péruvienne à ses élèves. Elle vous adresse une question.
Bonjour le Book Club. Alors cette année, j'ai choisi d'étudier Lettres d'une péruvienne de Madame de Graffini parce que c'est une lecture qui m'a beaucoup touchée. Alors, c'est vrai que mes élèves sont parfois étonnés de ces pleurs de Zilea, sans cesse en train de se plaindre. Et en fait, je leur dis, mais regardez, si vous étiez arraché avec violence à votre milieu naturel, forcément, bah voilà, on sentirait cette émotion dans vos lettres. Alors, j'ai une question pour le Book Club. Dans la lettre 41, dans la dernière, Zilea, alors sans rien dévoiler, hein, mais Zilea fait une proposition à Déterville sur leur future relation. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un retournement de situation. Zilea offre finalement un nouvel univers à Déterville. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette autre lecture du parcours? Je vous remercie.
Moi, je pense qu'on peut dévoiler. Angélique, merci infiniment pour cette lecture et j'espère que l'enseignement des lettres d'une péruvienne se passe bien. Charlotte Simonin, sur ce retournement?
Oui,
dévoilons, c'est pas grave. De toute façon, l'idée, c'est d'avoir lu le livre quand on passe l'épreuve.
D'accord. Alors, ce retournement, effectivement, c'est de sortir de la porie qui est aimer, mourir,
désespérer,
être malheureuse en ménage ou en mariage, c'est justement proposer l'amitié à un homme. Et là aussi, on peut peut-être rapprocher de l'autobiographie, puisque Françoise de Graffini a donc eu cette amitié extrêmement intense, mais ils n'ont jamais été amants
avec
Devaux. Mais c'est peut-être aussi une façon de, enfin c'est très à la mode de nos jours, mais on pourrait dire de réinventer les relations, voire la famille, en fait, finalement. Une femme et un homme, ça peut aussi être une grande amitié plutôt qu'un mariage, et en excluant évidemment le fait d'avoir des enfants et d'être dans le circuit usuel, disons.
Et en faisant promotion d'un horizon pour elle-même, c'est-à-dire que il y a à la fin quelque chose de l'ordre de l'existence pour soi, de la jouissance de l'existence pure, sans exclure ni la relation avec Déterville, ni renier son amour pour Asa, s'augmente comme de la joie d'être en vie.
Tout à fait, et c'est un bonheur par et pour elle-même, finalement, auquel elle accède. Et elle dira, par exemple, à ce titre, « Je suis, je vis, j'existe ». Donc, finalement, en très peu de mots, ce qui peut constituer l'objectif de tout cet itinéraire et qu'elle propose à travers une amitié qui serait loyale, sincère et qui serait consentie des deux côtés, ce qui n'était absolument pas le cas finalement du mariage et proposé par Déterville et proposé aux femmes au XVIIIe siècle.
C'est une porte de sortie, voire Angélique disait offrir un autre horizon qui est inattendu et qui est beau à évoquer. Charlotte Simonin.
Oui, c'est vrai qu'on peut penser à cet essai de Virginia Woolf, à une chambre à soi ou un espace à soi.
On y pense fort, voilà, avec ces trois mots.
C'est-à-dire qu'effectivement, voilà, l'espace pour que le féminin s'épanouisse et qu'il soit autre chose peut-être que le mariage
tendu
ou
vers
avoir des
mariage.
Enfants. Voilà, c'est un espace aussi pour se cultiver, puisque c'est ce dont elle parle beaucoup dans cette lettre 41, passer du temps à la fois à lire, mais aussi à se promener dehors, peut-être arboriser comme Rousseau ou comme d'autres, regarder le monde, découvrir le monde et partager cela en toute amitié.
Est-ce qu'il nous faut dire quelque chose d'autre? Ou est-ce qu'on aurait vraiment une super bonne note à notre oral là, si on s'arrêtait là? Qu'est-ce qu'on n'aurait pas évoqué de très important des lettres d'une péruvienne de Françoise de Graffini? Pas facile. Bon, peut-être on a été super. Bon, on a été super, très bien, le Book Club continue alors. Et le Book Club continue avec un agenda à cette heure-ci. Si vous voulez nous faire parvenir des informations concernant un événement, un rendez-vous en lien avec la lecture, l'écriture, le livre, vous pouvez le faire à l'adresse suivante, lebookclub@radiofrance.com. On voulait évoquer aujourd'hui la 8e édition de la Biennale des écritures du réel, qui accueillera 75 propositions pluridisciplinaires sur 5 semaines, du 18 mars au 3 mai 2026, dans 30 lieux partenaires de Marseille, des spectacles, des lectures, des rencontres d'auteurs, des conférences, des ateliers. Voilà, la croisée du voir et du faire, disent-ils, de la connaissance et de la pratique, de la pensée et de l'action. Ils invitent les publics de la Biennale à y jouer plein de rôles, venir en tant que spectatrice, mais aussi faire des tentatives lors de scènes ouvertes, s'essayer à une pratique artistique lors d'un atelier, rejoindre des créations partagées ou même un comité de programmation ou un groupe de complices bénévoles. Rendez-vous sur le site internet de la 8e édition de la Biennale des écritures du réel à Marseille.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
J'espère que ça va d'ailleurs à Marseille. On cherche de la musique. On cherche de la musique dans les livres pour le grand jeu des pages musicales dans le Book Club. Alors on l'a fait, on a cherché l'évocation musicale dans les lettres d'une Péruvienne et on a trouvé au début de la lettre 17 l'évocation d'une sortie à l'opéra. Zilia parle de sa... Vous voulez dire un mot, Charlotte Simonin ?
Non, je ne sais pas s'il y a le temps, mais je pensais à un bref extrait de sa correspondance normale, voilà, où justement elle parle aussi du plaisir d'être, qui me semblait aller en écho avec
la
lettre 41. Où elle dit, donc elle est à Thiers, donc non loin de Paris.
Là, on est dans sa vraie correspondance.
Vraie correspondance, hein. Voilà. C'est une lettre du 11 octobre 1749. « Mon Dieu, mon ami, que je goûte bien le plaisir d'avoir du pain assuré, car enfin ce n'est que du pain, mais j'en ai tant manqué qu'il a pour moi le goût de tarte. Il fait un temps si délicieux que tout contribue à me rendre une gaieté que j'avais entièrement oubliée. Je chante toute la journée, et mon âme est encore bien plus sereine que mon existence. Je ne suis pas un instant sans jouir. L'air, le ciel et la terre me sont aussi nouveaux que si j'étais aveugle né et que j'ouvre les yeux pour la première fois. Je jouis 1000 fois par jour de la sécurité. »
Et bien, donc, c'est tout ce qu'on se souhaite. La lettre 17, donc. « Je ne sais plus que penser du génie de cette nation, mon cher Asa. Il parcourt les extrêmes avec tant de rapidité qu'il faudrait être le plus habile que je ne le suis pour asseoir un jugement sur son caractère. On m'a fait voir un spectacle totalement opposé au premier. Celui-là, cruel, effrayant, révolte la raison et humilie l'humanité. Celui-ci, amusant, agréable, imite la nature et fait honneur au bon sens. Il est composé d'un bien plus grand nombre d'hommes et de femmes que le premier. On y représente aussi quelques actions de la vie humaine, mais soit que l'on exprime la peine ou le plaisir, la joie ou la tristesse, c'est toujours par des chants et des danses. Il faut, mon cher Asa, que l'intelligence des sons soit universelle, car il ne m'a pas été plus difficile de m'affecter des différentes passions que l'on a représentées que si elles eussent été exprimées dans notre langue, et cela me paraît bien naturel. Elle aurait donc pu aller voir les Indes Galantes ?
Ah, elle est allée.
Ah ben voilà.
Elle aime Rameau, voilà. Mais en revanche, là, ce passage-là n'est pas du tout autobiographique parce que dans sa vie réelle, elle aimait infiniment mieux le théâtre que l'opéra.
Ah oui, alors qu'elle parle justement
là,
de cette manière
là, c'est l'inverse, ce n'est pas
la vie par les chants et la musique. Un très grand merci à toutes les deux, Charlotte Simonin, Lucille Arnaud. Je rappelle, les deux ouvrages, on les mettra sur le site internet chez Ellipse et chez Garnier Flammarion, à la fois commentés, notés, avec des tableaux. Enfin, c'est extrêmement bien fait. Merci beaucoup. J'espère qu'on vous a donné tous les éléments et surtout envie de lire Françoise de Graffigny et de préparer votre épreuve du bac dans une telle jouissance, la même que celle d'être au monde de Françoise de Graffigny. En tout cas, pour moi, c'était une super découverte. Un très grand merci à toute l'équipe du Book Club, en particulier à Cyril Marchand aujourd'hui. Il y a plein de podcasts sur l'application Radio France, des milliers d'heures de podcasts pour vous aider à réviser dans la joie. Jean-Guilain Meige au son, Vivien Demeyer à la réalisation.